Le conseil politique de l'éveil océanien, il était réuni à Païta aujourd'hui, un conseil politique lors duquel le parti a présenté certains de ses candidats aux prochaines élections municipales. Sonia Lagarde et Sonia Baquet sont ensemble ce matin au foyer wallisien de Magenta, l'occasion pour Jonas Taofi Fenois d'annoncer à la communauté qu'il avait décidé de quitter l'éveil océanien pour rejoindre les loyalistes. Le président israélien en visite officielle en Australie, visite de 5 jours à l'invitation du gouvernement australien 2 mois après l'attentat de Bondi Beach. Les premiers pour parler hier entre les États-Unis et l'Iran. Le ministre des Affaires étrangères iranien a salué une atmosphère positive. Donald Trump, le président américain, a parlé d'une très bonne discussion. Le sport, et c'est parti pour les Jeux Olympiques d'hiver de Milan Cortina. La cérémonie d'ouverture, c'était ce matin. Et les choses sérieuses débutent ce soir pour l'équipe de France. Bonsoir, soyez les bienvenus dans ce journal. Les prochaines élections municipales dans le viseur de l'éveil océanien. Le parti tenait donc son conseil politique. Ce matin, c'était au doc socioculturel de Païta, Michael Juneski.
Oui, l'éveil océanien souhaitait tout d'abord faire le point devant ses militants sur les discussions parisiennes et la signature de l'accord complémentaire Élysée-Oudinot. Un retour également sur l'ensemble des échanges quant à l'accord de Bougival. Vaïmoua Mouliava, le vice-président de l'éveil océanien.
Je crois qu'il était important d'expliquer à nos militants qui nous avaient mandatés pour partir à Paris, pour surtout sur les finances publiques, un accord économique et social, parce que 2026, c'est l'année où les retraites s'évaporent, rupture de trésorerie avril-mai. En fait, finalement, leur quotidien. C'était dans notre responsabilité de leur faire un retour, leur dire que est né à Paris un moment de grâce entre tous les partis pour défendre cet accord économique et social et imposer finalement cet accord économique et social comme étant partie prenante ligaturée à l'accord sur l'avenir institutionnel.
L'éveil océanien qui a ensuite présenté sa stratégie pour les élections municipales de mars prochain. Le parti présentera des listes, notamment à Païta avec le président du parti Milakou Lotokoumouli, mais aussi à Dimbéa avec Vaïmoua Mouliava, au Mont-d'Or avec Pételo Sao. Il sera présent encore dans les communes de Yaté avec Joanne-François Anthony, de Thio avec Teva Pouahéo, tandis qu'il soutiendra les listes de Patrick Roblin à Bouraille ou Steven Skaouda à La Foi. On retrouve Vaïmoua Mouliava.
L'occasion nous est donnée, au-delà des communautés, de tracer une voie médiane. Vous savez, le parti autrefois s'est concentré dans les 4 grandes communes. Depuis, nous avons grandi. On se présente au communal depuis Bouraille. Vous savez que le maire sortant était le suppléant de Milakou Lotokoumouli lors des législatives, donc nous allons le soutenir. La Foi, nous avons décidé de soutenir la jeunesse, Steven Kaouda. Et puis, sur Mont-d'Or, ce sera Pételo Sao, avec toujours cet état d'esprit d'ouverture. Et puis, Païta, ce sera Milakou Lotokoumouli. Et moi, Dimbéa, Indoméa est encore en train de réfléchir qui nous allons soutenir ou est-ce que nous allons nous lancer.
Notez que Philippe Dunoyer de Calédonie Ensemble avait été invité à l'occasion de ce meeting pour s'exprimer également sur la scène et officialiser ainsi le rapprochement des deux parties devant les militants de l'éveil océanien. Plusieurs centaines de militants avaient fait le déplacement au doc socioculturel de Païta pour ce conseil politique de l'éveil océanien.
Du côté de Magenta, c'est un rassemblement à l'initiative d'un désormais ex-élu de l'éveil océanien qui s'est déroulé ce matin. Une cérémonie a été organisée au foyer wallisien et foutounien pour célébrer la nouvelle année. Un moment symbolique mais aussi politique, Charlotte Coulson.
Plusieurs élus loyalistes ont répondu à l'invitation. Sonia Baquès, la présidente de la province sud, accompagnée de son vice-président Gilles Brial, mais aussi Sonia Lagarde, maire de Nouméa. Vous l'avez dit, c'était une cérémonie symbolique pour marquer le passage à la nouvelle année avec des discours, des coutumes et des prières. Et derrière ce verre de l'amitié, un enjeu plus politique. Jonas Taofi Fenois, élu à la mairie de Nouméa, a en effet annoncé quitter son groupe d'opposition, l'Éveil Océanien, parti dont il était d'ailleurs cofondateur. Il rejoint la majorité aux côtés de Sonia Lagarde et par la même occasion, la famille des loyalistes. Écoutez Jonas Taofi Fenois.
Les divergences de l'ancien parti où j'étais, là, que j'ai annoncé mercredi soir au conseil, n'allaient plus avec mes opinions personnelles. C'est pour ça que j'ai décidé, en mon âme et conscience, avec toute la famille, tout ça, qui ont suivi l'éveil, de regagner les partis loyalistes. Je veux regarder la Calédonie dans la France. Le grand-père, le tonton, tout le monde dans la famille et tous ceux qui sont là, qui sont venus aujourd'hui, c'était pour confirmer que nous resterons toujours dans la France.
Et dans la salle, des signes d'approbation lorsque Jonas Taofi Fenois annonce vouloir une Calédonie française. La maire de Nouméa, Sonia Lagarde, s'est ensuite exprimée en saluant évidemment cette décision et en rappelant aux Calédoniens l'importance d'aller voter au mois de mars.
Aujourd'hui, j'ai retrouvé tout plein de visages que je connais. On s'est beaucoup vus pendant la campagne. Et j'ai rappelé la nécessité aussi d'aller voter. Parce qu'une élection municipale, c'est l'élection où quelquefois il y a... Voilà, les gens ne pensent pas toujours à y aller et donc je crois que c'est important de se manifester.
Moi j'ai une liste qui rassemble et j'ai toujours fait attention pendant toute cette mandature à alimenter les élus qui étaient de la majorité ou de l'opposition, je n'ai pas fait distinction. Et donc voilà, c'est un choix qu'il a fait, je suis assez contente qu'il l'ait fait.
Sonia Backès, de son côté, a profité de cet événement pour passer un message politique clair. Les Océaniens ne sont pas tous indépendantistes, contrairement à ce que certains laissent entendre.
Il y a une petite musique qui a été lancée en 2019 qui disait « En gros, quand on est océanien, on fait partie de la grande famille indépendantiste ». Ça, c'était un peu des paroles en l'air parce qu'en fait, on s'est rendu compte que très vite, dès que les choses se tendent, bah, finalement, c'est revenu Kanaki et les autres, il n'y a plus d'océaniens qui vaillent. Et c'est vrai que je pense que l'intérêt de la communauté wallisienne et futunienne, et elle le sait, je pense très majoritairement, c'est de rester dans la France. Et aujourd'hui, les ambiguïtés, malheureusement, de l'éveil océanien avec le FLNKS portent préjudice à la communauté. Jonas Taoufifenoua, qui fait partie des membres fondateurs de l'éveil océanien, est parti pour cette raison-là. Je pense qu'il y a aussi une prise de conscience du fait que finalement, la position qui est portée aujourd'hui n'est pas forcément conforme à ce que veut la majorité de la communauté.
Une cérémonie de verre de l'amitié du Nouvel An qui s'est donc déroulée au foyer wallisien et futunien à Magenta. La structure a été rénovée l'année dernière, tandis que la maison de Wallis et Futuna, située juste à côté, avait, elle, été inaugurée également en 2025. Un projet qui avait entièrement été financé par la province sud.
Déconseiller les moments de partage avec celles qui veulent se lancer dans l'aventure Miss Nouvelle-Calédonie. Juliette Collet était à la rencontre du grand public ce matin sur la place des Cocotiers, Mickaël.
On rappelle que notre ambassadrice de beauté a terminé l'année dernière première dauphine du grand concours Miss France 2026. Un résultat exceptionnel qui a remis en lumière le travail du comité Miss Nouvelle-Calédonie alors que les inscriptions pour les futures candidates sont d'ores et déjà ouvertes. Françoise Follenfant est trésorière du comité Miss Nouvelle-Calédonie.
Procède au recrutement, c'est déjà en ligne depuis un petit moment. On a quelques candidates. Ça a été une année, difficile pour la Calédonie dans l'ensemble. Je parle en termes de financement et tout, avec tout ce qui s'est passé. L'année dernière, ça n'a pas été facile. On voit qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de gens qui sont prêts à nous accompagner en termes de financement. Aussi les institutions et tout. Déjà, on les remercie pour ceux qui nous ont vraiment aidés. On voit que Miss Calédonie, c'est pas juste un concours de beauté, c'est quelque chose qui va au-delà. On voit très bien avec Juliette, ça a mis en valeur le pays. Et ça, c'est quelque chose qui me touche énormément en termes dans le comité.
Désormais revenue sur le territoire, Juliette Collet n'hésite pas à évoquer son expérience avec celles qui veulent se lancer dans l'aventure. Elle souhaite aussi remercier les Calédoniens pour le soutien exprimé durant son parcours sur la scène nationale.
C'est un plaisir de surtout remercier les gens qui m'ont soutenue parce que il ne faut pas oublier que c'est grâce à eux que je suis arrivée là, parce que toute seule, je ne serais jamais arrivée aussi loin. Donc merci beaucoup, ça fait énormément plaisir, on ressent la fierté et je pense que c'est une fierté générale du pays du fait qu'on ait été mis sur le devant de la scène, c'est le cas de le dire, mais de parler de la Nouvelle-Calédonie et c'était mon but quelque part, donc c'est une fierté personnelle aussi. Les gens me reconnaissent, mais c'est avec bienveillance, avec joie, on se croise toujours avec le sourire, on se fait coucou en voiture, quand on prend des photos c'est toujours le grand sourire, donc ça fait du bien, surtout après la période qu'on a passée, on se sourit mutuellement, on se donne de la joie mutuellement, donc c'est vraiment cool.
Miss Nouvelle-Calédonie qui était donc présente ce matin sur la place des Cocotiers et qui souhaite multiplier les temps de rencontre et d'échanges avec le grand public, déjà dans l'optique de donner de bons conseils aux futures candidates à l'élection Miss Nouvelle-Calédonie.
Une journée solidaire organisée par le Secours catholique aujourd'hui. L'association caritative a ouvert les portes de sa boutique à la Vallée du Tir pour accueillir le public. L'objectif, soulager le porte-monnaie des familles à l'approche de la rentrée scolaire en leur proposant des fournitures, des vêtements à très bas prix. Le rendez-vous a attiré du monde et pour cause, selon Marie-Françoise Méhoun, la présidente de la délégation calédonienne du Secours catholique. Les demandes ont explosé depuis 2024.
C'est compliqué la rentrée, le sait, pour certaines familles. C'est la braderie annuelle du Secours catholique pour la rentrée des classes, mais avec une connotation particulière, avec la conjoncture que nous connaissons actuellement. Nous, aujourd'hui, nous assistons à une augmentation des demandes avec des nouvelles personnes qu'on ne suivait pas jusqu'à présent. On va dire que par rapport aux autres années, aujourd'hui, on en est à des volumes d'aide, ne serait-ce que pour la partie alimentaire, on est passé multiplié par 4-5 ce qu'on faisait annuellement. Donc c'est pas neutre pour les associations.
Et j'ajoute que les boutiques du Secours catholique restent ouvertes en semaine. Toute l'actualité est à retrouver sur la page Facebook du Secours catholique Nouvelle-Calédonie. Un marché artisanal en bord de mer, c'est le Tropical Market qui tient sa première édition de l'année. Ce week-end, de nombreux créateurs étaient rassemblés aujourd'hui sur les quais de Nouméa, Charlotte.
Et c'est l'endroit idéal pour découvrir le savoir-faire des Calédoniens, avec parfois quelques trouvailles inattendues, comme par exemple des vêtements upcyclés, un anglicisme avec lequel on se familiarise peu à peu. Il s'agit en fait de récupérer des vêtements délaissés et leur offrir une seconde vie en les transformant légèrement. Naomi Daculci en a fait sa marque de fabrique. Elle tente de se faire connaître sur les marchés sous l'enseigne Florescence.
Alors du coup, je récupère des textiles usagés, généralement qui ont une tache, un trou, un défaut. Et l'idée, c'est de récupérer toute la matière qui est disponible sur le vêtement, qui n'est pas abîmé, qui est en bon état, pour en refaire. Du coup, ça va du chouchou, protège passeport, au sac banane, à la pochette, au sac à main, et puis bien sûr, voilà, des chemises, des robes et des ensembles. Alors j'ai, on va dire, des personnes qui reviennent régulièrement, qui ont déjà en fait dans cette démarche aussi d'acheter en friperie, seconde main, ou qui en tout cas ont envie d'acheter responsable. Donc petit à petit, je me fais connaître comme ça, mais il y a beaucoup encore de sensibilisation à faire. Donc c'est aussi l'intérêt d'être sur les marchés pour expliquer ma démarche et dire que non, et les vêtements sont bien propres, ils ont été lavés, ils sont même parfois plus propres que ce qu'on peut trouver dans le neuf. Et que l'idée, c'est de proposer quelque chose qui est à la mode, tendance, qui reprend des formes actuelles et qu'on a envie de porter.
Naomi Daculci qui sera également présente demain avec les autres artisans puisque le Tropical Market se poursuit de 9h à 14h au Quai Ferry.
Autre marché pour les amoureux de fruits de mer cette fois-ci, le marché spécial Crabe et Picot qui est organisé demain par le marché du 7e kilomètre. Plus d'une quinzaine d'exposants seront sur place et ils présenteront notamment divers plats à base de crabe et de picot. Les précisions d'Étienne Miloul, organisateur du marché du 7e kilomètre.
Alors quelque chose que les Calédoniens adorent, donc là c'est la réouverture de la pêche des crabes et des picots. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on va proposer sur ce marché-là? Donc, vous allez pouvoir trouver sur place des crabes frais, du picot frais et plein de produits transformés autour de ces deux produits phares de la culture calédonienne. On n'est que sur des produits du terroir, que sur de la restauration. Donc, en parlant de produits transformés autour du picot et du crabe, il y aura des picots frits, des coquilles de crabe farcies, des beignets de crabe, du crabe curry. Enfin, voilà tout ce genre de choses en fait que les artisans auront préparé et pour le plaisir de tout le monde ce dimanche. Vous allez pouvoir trouver plein de choses. Hein. On a aussi l'association indonésienne qui, on rappelle, fête cette année ses 130 ans, qui a beaucoup d'animations de prévues cette année, qui sera là sur le marché avec un stand, avec toute une partie de la restauration indonésienne, et ils vont nous faire découvrir de très belles choses, et de très bonnes choses.
Le marché du 7e kilomètre, c'est de 7h à midi, demain sur le parking du Barbecue Store. Direction la place de la mairie de Farino, qui accueillera demain également le deuxième marché de mamie de l'année 2026. Les exposants seront nombreux à proposer sur leur table divers produits frais ou transformés, de la charcuterie, sans oublier bien sûr plantes vertes ou fleuries. Écoutez Ghislaine Arly, la responsable du marché de mamie.
C'est toujours la grande fête du retour des crabes, hein, c'est important. On aura du crabe sur les étals. Donc bien sûr, les premiers arrivés seront les premiers servis. Mais le marché ouvre à 8h, donc il y a largement le temps. On a toujours nos produits habituels, hein, bien sûr. Des produits que les gens connaissent tous. Beaucoup de produits, une grande diversité de produits, donc à découvrir, à affiner, à regarder, à goûter. Hein. Notre côté artisanat, toujours besoin de faire un petit cadeau, un artisanat très local, très joli, très simple et local, fait main. On a toujours nos belles plantes, hein, qui sont connues parce que pas chères, hein, les prix très abordables, hein, que les femmes de Saraméa, les femmes de la région, on a toujours des prix très abordables, donc... Les gens aiment beaucoup parce que ce sont des plantes vertes qu'on peut mettre dans les maisons. Toujours de bonnes raisons de venir au marché, se promener, faire la petite balade en famille, déjeuner sur place ou dans les gîtes, dans les tables d'hôtes qu'il y a dans le coin. Puis voilà, profiter de ces derniers jours de vacances.
Et le marché de mamie, c'est demain de 8h à midi sur la place de la mairie à Farino. Il est 18h sur Radio Rythme Bleu. Nous allons marquer une première pause dans ce journal à suivre l'actualité dans la région, dans le monde et en métropole. À tout de suite.
Savez-vous que vous pouvez acheter malin grâce aux étiquettes énergie de vos appareils? Les classes vous donnent également une idée de la consommation électrique et en eau par an, en plus d'autres informations utiles comme la capacité en kilos de vos appareils.
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Entreprises, cabinets juridiques, collectivités, vous souhaitez être lu, être vu? Confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annoncelegale@rrb.nc ou au 25 46 46. RRB, 16h-19h, le tout info.
Il est 18h passé de quelques secondes sur RRB. La suite de votre journal avec Lionel Sabou.
Et l'actualité dans la région Pacifique. Le président israélien Yitzhak Herzog entame demain une visite officielle de 5 jours en Australie. Il a été officiellement invité par le gouvernement travailliste dirigé par Anthony Albanese. Correspondance Jean-Pierre Zajac.
La ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong, a indiqué dans un entretien que c'est à la demande expresse des responsables de la communauté juive du pays que cette visite intervient. Le président Herzog, a-t-elle précisé, est invité en Australie pour honorer la mémoire des victimes de la tragédie de Bondi Beach et pour apporter son soutien à la communauté juive australienne. D'après un responsable de ladite communauté, Colin Rubinstein, que je cite, cette visite est une étape essentielle du processus de guérison au moment où le pays est confronté à une recrudescence sans précédent de l'antisémitisme. La visite du président Herzog sera toutefois boycottée par certains élus du Parlement fédéral et celui du New South Wales. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Les premiers pour parler hier entre les États-Unis et l'Iran à Oman. Les discussions après plusieurs mois de tensions entre les deux pays. Le ministre des Affaires étrangères iranien a salué une atmosphère positive. Donald Trump a lui parlé de très bonnes discussions et affirmé qu'elles pourraient se poursuivre en début de semaine prochaine. Et pourtant, quelques heures seulement après ces premiers pour parler, Washington a imposé de nouvelles sanctions pétrolières à Téhéran. Alors que peut-on véritablement attendre de ces échanges ? L'analyse de David Rigoleros, il est rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique.
Ça permet de différer la perspective de ce qu'on a appelé l'option militaire, effectivement, puisque elle prenait de plus en plus de consistance, mais ça ne veut pas dire qu'elle disparaît, loin de là. En fait, il ne s'agit pas de négociation, en fait, il s'agit de pourparler pour définir les conditions d'une éventuelle négociation, dans la mesure où la teneur de l'agenda n'a pas été déterminée, et on l'a vu à l'issue justement de ces pourparlers, puisque les positions, les lignes rouges respectives des deux parties demeurent inchangées. On voit bien que la tension est extrême et pour l'instant, il n'y a pas de perspective de compromis qui se dessine.
David Rigoleros, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique, invité d'Europe 1 Week-end. En métropole, Amine Kessassi a dû être exfiltré jeudi dernier d'un meeting à Aix-en-Provence en raison d'une alerte sécurité. Colistier du maire sortant de Marseille, le militant anti-narcotrafic vit sous haute protection policière près de 3 mois après l'assassinat de son petit frère. Une situation qui complique la campagne du maire sortant, Arthur Delaborde pour Europe 1.
C'est un véritable casse-tête pour les forces de l'ordre. L'engagement d'Amine Kessassi aux côtés de Benoît Payan nécessite une mobilisation permanente. Le militant anti-narcotrafic vit sous protection. Il se déplace en voiture blindée, entouré d'agents du ministère de l'Intérieur. Sa famille fait aussi l'objet d'une protection rapprochée. À chaque déplacement d'Amine Kessassi, les policiers doivent s'assurer que les lieux sont sûrs. On ne le laisse pas se rendre dans un lieu public sans surveillance, précise un proche du dossier. Résultat, des moyens lourds, constants et coûteux. En revanche, il n'est pas question pour l'État d'assurer la sécurité de l'ensemble des réunions de campagne de Benoît Payan. C'est au candidat de prendre en charge une sécurité privée pour effectuer des contrôles à l'entrée des meetings. Le maire sortant pourra intégrer une partie de ses dépenses à ses frais de campagne et être remboursé à hauteur de 75 000 euros maximum. Selon les informations d'Europe 1, le ministère de l'Intérieur prévoit d'échanger dans les prochains jours avec Amine Kessassi sur son implication dans la campagne municipale marseillaise et calibrer au mieux sa protection.
Les précisions d'Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Une magistrate enlevée avec sa mère est séquestrée pendant 30 heures. Ça s'est passé en Isère. Les enquêteurs privilégient la piste d'une séquestration liée aux crypto-monnaies. Les deux femmes ont finalement été retrouvées hier matin à Bourg-les-Valences, dans la Drôme cette fois-ci. C'est à 100 km de leur lieu d'enlèvement. Elles étaient ligotées, bâillonnées et légèrement blessées. Le procureur de la République de Lyon, Thierry Dran, s'est exprimé tôt ce matin pour nous. Il a donné des précisions, notamment sur la manière dont les deux femmes ont échappé à leur raviseur.
Les deux victimes ont réussi à s'extraire du garage dans lequel elles étaient séquestrées sur la commune de Bourg-les-Valences. Elles ont pu profiter de l'absence de leur ravisseur pour se détacher, pour appeler de l'aide, notamment en tapant fortement contre la porte du garage, Alerté par le bruit, un voisin est alors intervenu. Il a pu ouvrir la porte et ainsi permettre à nos deux victimes de s'échapper. Elles ont été immédiatement prises en charge par les secours et transportées à l'hôpital. Je tiens à préciser à ce stade que, après leur libération, c'est important de le dire, aucune rançon n'a été versée.
Thierry Dron, le procureur de la République de Lyon. Il est 18h et pratiquement 6 minutes. Nous allons marquer une dernière pause dans ce journal. Vous restez avec nous dans un instant, l'actualité sportive et la météo.
Attention, plus que quelques jours avant le tirage au sort du million en bons d'achat sur RRB. N'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire. Envoyez maintenant RRB au 4020. Il n'y a pas de liste préétablie. Le ou la gagnante décidera comment dépenser son million. Et puis, il y a toujours 100 000 francs à gagner en bons d'achat. Si vous êtes le 1500e SMS, pile sur le compteur.
Alors n'hésitez plus. Envoyez maintenant RRB au 4020. Chaque SMS compte pour le tirage du million le vendredi 13 février à 14h. 371 francs par SMS. Règlement disponible à l'accueil de la radio. Saisissez votre chance, envoyez RRB au 4020.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, 16h, 19h, le tout info.
À 18h06 sur RRB, l'actualité sportive avec Lionel Sabou.
Il y a la une de cette actualité sportive, les Jeux Olympiques d'hiver. La cérémonie d'ouverture des JO de Milan-Cortina avait lieu ce matin pour nous. Les athlètes ont défilé dans 4 sites de compétition, au stade de San Siro à Milan, mais aussi dans plusieurs villages des Alpes. Le spectacle a duré près de 4 heures avec de nombreux tableaux symboliques de l'Italie. Plusieurs stars étaient également présentes. Axel May pour Europe 1.
Benvenuti alla cerimonia di apertura.
Un festival de costumes colorés pour lancer la cérémonie. En tribune ont notamment pris place la présidente du CIO, le chef d'État italien et le vice-président américain Gigi Vance qui est sifflé. Sur scène, la mégastar Maria Carré chante en italien et en anglais. Un hommage est rendu au couturier Giorgio Armani et puis commence le défilé des athlètes. 92 délégations qui paradent pendant 1h30 dans le stade de Milan, mais aussi grande première pour ces Jeux éclatés géographiquement sur 3 autres sites. Ainsi, c'est à Livigno, à plus de 200 km de la capitale lombarde, que les porte-drapeaux français, la snowboardeuse Chloé Trespoche et le slalomeur Clément Noël ont défilé.
Et on était quand même pas mal d'athlètes et de staff ici à Livigno. C'est pas le stade San Siro et je pense que c'est une ambiance légèrement différente, mais on en a profité, on était tous heureux d'être là.
À Milan, la cérémonie s'est conclue par un message de paix et les derniers relais de la flamme olympique. Les Jeux d'hiver sont bel et bien lancés avec une première épreuve phare. Aujourd'hui, la descente masculine, 4 Français en lice, dont le jeune Alban Elesi Canaferina.
Le reportage d'Axel May pour Europe 1. Un coup d'œil au reste des épreuves qui seront à suivre pour cette toute première journée de compétition au JO avec vous, Mickaël Juneski.
Oui, en dehors du ski alpin, il y aura du ski freestyle avec le slopestyle et à suivre la française, notamment Kim Dumont-Zanella, tout comme Mathias Roche et Timothée Sivignon chez les hommes un peu plus tard dans la nuit. En ski de fond aussi, le début des épreuves ce soir pour Léonie Perry, Julie Pierrel, Chloé Panier et Delphine Claudel. En patinage de vitesse, Violette Brown, 19 ans tout juste, entrera en piste sur le 3000 mètres. Il y aura également du saut à ski chez les dames avec Emma Chervet et Joséphine Panier. En patinage artistique, Kevin Emoz tentera de décrocher des points importants sur le programme court en individuel, alors que le couple Guillaume Cizeron, Laurence Fournier-Baudry débutera demain matin avec la danse libre.
Je vous sens hyper motivé pour ces JO, Mickaël Juneski.
On va suivre tout ça de près, oui.
Et on va passer au football avec la suite de la 21e journée du championnat de France de Ligue 1.
Et 3 rencontres encore à suivre. Les Lensois demain matin, toujours deuxième du championnat de France, qui recevront les Rennais. Les Rennais qui sont, eux, en 6e position. Lens va de nouveau tenter de passer devant le PSG en cas de victoire pour ensuite espérer un faux pas de Paris afin d'essayer de rester en première position. Match à suivre à partir de 3h. Ce sera suivi du derby breton entre Brest et Lorient. Deux équipes dans le ventre mou du tableau. Brest à la 12e place, Lorient 9e. La rencontre sera à suivre à partir de 5h pour nous. Et enfin, le FC Nantes affrontera l'Olympique Lyonnais. Les Nantais sont toujours dans la zone rouge, alors que Lyon est à égalité de points avec Marseille sur la 3e marche du podium. Un match à suivre dès 7h05 ce dimanche.
Performance, engagement, dépassement de soi, entrez dans la mêlée des pages spéciales tournoi destination sur Radio Rythme Bleu avec l'OPT.
OPT, le monde à portée de main.
Le tournoi Destination et deux affiches à suivre pour le compte de la première journée au lendemain du succès du 15 de France contre l'Irlande.
Oui, on le rappelle, hein, les Bleus l'ont emporté hier sur le score de 36-14. La nuit prochaine, l'équipe d'Italie tout d'abord qui recevra l'Écosse. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 1h10 du matin pour nous. Et puis la dernière rencontre de cette première journée se jouera à partir de 3h40. Cette fois, l'Angleterre accueillera le Pays de Galles. Un match qui se disputera sur la pelouse de Twickenham.
Jusqu'au 14 mars, suivez le tournoi Destination sur Radio Rythme Bleu avec l'OPT. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Du rugby encore, mais à 7 cette fois-ci avec l'étape du circuit mondial. C'est à Perth chez nos voisins australiens, Michael.
Et l'équipe de France féminine qui évolue de nouveau avec une calédonienne, Anne Iconi, une semaine après sa première en bleu à Singapour. Cette fois sur les terrains d'Australie dans la poule B, les Françaises ont déjà battu ce matin les Canadiens 24-12, avec d'ailleurs un essai d'Anne Iconi. Les tricolores font face désormais aux Australiennes sur la pelouse de Perth. Leur dernier match de poule les opposera aux Anglaises.
Et on termine ce journal avec la météo.
Votre magasin Auchan Kéferi vous présente les points météo. Le soleil brille sur vos envies et une pluie de bonnes affaires se profile à l'horizon grâce à notre carte de fidélité. Bénéficiez de 5% de cagnottage sur tous vos produits Auchan. Pour découvrir toutes nos gammes, promos et bonnes affaires, rendez-vous dans votre Auchan Kéferi.
Mesdames, messieurs, attachez vos ceintures. Embarquement immédiat pour la météo, c'est avec Jennifer.
Je vous ai manqué, Lionel.
Oh là.
Ah, on va pas en parler ici. Oui. Cette nuit, des averses, Lionel, des averses résiduelles concernent le nord-ouest et Ouvéa en soirée, alors qu'elles sont plus persistantes sur le nord-est et l'extrême nord. Ailleurs, la nuit sera largement étoilée. Le vent d'est-sud-est faiblira entre 10 et 15 nœuds, mais se maintiendra proche des 20 nœuds sur le nord-est. Le vent sera moins fort sur la côte ouest, entre 5 et 10 nœuds, mais des accélérations à 15 nœuds sont possibles dans les vallées du nord-ouest. Les températures de la nuit sont à la baisse sur le sud de la Grande Terre et des loyautés entre 19 et 24 degrés, ça va faire du bien, mais se maintiendront de 24 à 26 degrés ailleurs. Un petit aperçu pour demain matin, large soleil demain matin, Lionel, ça va être sympa ce dimanche. Sur l'extrême nord, des nuages s'attarderont avec de rares précipitations. Le vent de sud-est s'établira lui autour de 15 nœuds, localement 15 à 20 nœuds sur l'extrême nord et le nord-est, voilà.
Merci Jennifer.
Ça vous plaît ?
Ouais, j'aime bien, c'est pas mal la météo. Extraordinaire,
c'est de la lecture.
Allez, désarmement des toboggans, c'est la fin de ce journal. Exactement. Merci de l'avoir suivi, il sera disponible d'ici quelques minutes. Sur notre site internet, c'est le www.rrb.nc. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. À tout à l'heure, 19h.